Bonjour. Merci à tous pour cette première partie du culte. Savez-vous pourquoi on nous appelle protestants? Savez-vous que vous êtes des protestants? Non. C'est parce que l'une des raisons, c'est que nous avons protesté contre l'Église universelle que Jésus-Christ était le seul chemin. Une des raisons, parce qu'il y a plusieurs autres raisons. Et les protestants que nous sommes ont protesté et nous avons gagné. Voilà pourquoi il y a l'Église universelle catholique d'un côté, puis les protestants évangéliques de l'autre, ou adventistes, tout ce qui n'est pas catholique. D'accord? Et dans 2 jours, on fête chez les catholiques ce qu'on appelle l'Assomption.
Je parle au conditionnel. La montée de Marie au ciel. Alors préparez vos papiers et crayons, il y aura des textes à écrire. Vous savez, l'évangile est une, par définition, la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit. N'est-ce pas? Et vous savez, quand on se convertit, on dit, ah, pourquoi on m'a pas dit ça plus tôt? Pourquoi c'est maintenant que je découvre? Et c'est là qu'on chante, Jésus-Christ nous a ouvert les yeux et nous a ouvert les cieux, parce qu'on était enfermés dans les ténèbres. Et je me souviens, quand je me suis converti, j'étais assez jeune, j'avais une vingtaine d'années, on va de maison en maison, on témoigne, on évangélise, et j'arrive devant cette dame qui est en train, je ne sais plus ce qu'elle y prêchait, et je lui parle de Jésus. Il ne faut pas parler de la religion, il faut parler de Jésus, Jésus-Christ. Et il me dit, oui. Ce que tu dirais est vrai, mais il y a aussi Marie, il y a Joseph, il y a la Sainte Vierge Marie, elle m'a donné tous les saints et saintes. J'ai dit, bon, d'accord, c'est mort. Marie, mère de Dieu ou mère de Jésus? Ça, c'est la question, première question. Elle est mère de Dieu ou mère de Jésus? Parce que si elle était mère de Dieu, pourquoi on n'adore pas Marie? Parce qu'elle serait logiquement venue avant Dieu. C'est la poule et puis l'œuf. Vous avez fait la poule. Mais, 15 août, fête de l'Assomption, et je me suis posé la question et je me suis dit finalement, il y a eu quatre qui sont montés au ciel, enlevés comme ça. Deux dans l'Ancien Testament et deux dans le Nouveau. Vous voyez de qui je parle? Il y a eu Enoch. Élie, Jésus-Christ, et puis on a ajouté Marie. Mais qu'est-ce que la Bible dit concernant l'enlèvement de Marie? Nothing, rien. Alors, où est sortie cette doctrine et où sont les textes, où sont les témoins de l'enlèvement de Marie dans la Bible? Il n'y en a pas. Mais en tout cas, sachez que ce qui fait la force de l'Église catholique romaine aujourd'hui, c'est la tradition. C'est toutes ces dates, tous ces rituels qui sont là et qui alimentent pour permettre aux uns et aux autres de rester là, dans la bêtise, pour ne pas dire dans les ténèbres. On va faire un peu d'histoire biblique aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, prenez de quoi écrire. Comme ça, vous allez revoir chez vous. On aura beaucoup de textes à lire et le premier texte, l'un des évangélistes qui raconte la venue de l'ange auprès de Marie, se trouve dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Matthieu 1, verset 18. Vous savez, il y a toute la généalogie qui précède et puis il y a cet ange qui vient au-devant de Marie. Matthieu chapitre 1, verset 18. Vous l'avez trouvé, c'est projeté dans la version de la Colombe. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Stop. Comment ça peut se faire? Vous avez une jeune fille chez vous, elle est fiancée. Et elle fait un bébé dans le dos du gars. Vous me suivez? Vous êtes sûr, parents, qu'elle est vierge, parce que le mot ici est utilisé est vierge. Vous, parents, avant d'arriver aux parents, vous êtes Joseph. Vous faites quoi? Ben oui, il y a la confusion parce que je sais que je ne t'ai pas touché. Alors, enfin, de qui? Et ça me fait penser à des parents qui ont emmené leur enfant, leur fille à, chez le médecin et puis l'enfant grossit et ils ne comprennent pas. Et le médecin dit, mais votre fille est enceinte. Il dit, mais non, qu'est-ce que vous racontez? Mais non, c'est pas possible, elle est vierge, elle est chez nous. OK? Alors le médecin va au devant de la vitre et il regarde. Il se promène et il attend. Et il dit, mais médecin, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était la Vierge Marie. Donc c'est encore une manifestation du Saint-Esprit. Mais on va se plaindre, on va dire, pauvre Joseph. Mais réaction envers Marie, c'est de traiter Marie de malhonnête. Tu lui as fait ça, pauvre Joseph, un garçon si gentil. Hein? On l'aurait méprisé, maltraité, voire lapidé, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est notre génération, nous sommes humains. Et cette génération, aujourd'hui, n'est pas pire que celle d'avant. Hein? Vous allez voir. Le texte de Luc, nous le verrons plus tard, l'autre texte qui parle de cette naissance. Nous continuons au verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, un homme juste, il ne voulait pas la diffamer, il se proposa de rompre secrètement avec elle. Oui, on va faire ça en catimini. C'est pas simple pour Joseph. Et j'ai envie de dire, c'est un scandale, hein? Mais Dieu aime les scandales. Dieu aime les choses folles de ce monde pour nous confondre. Vous allez voir qu'il y a d'autres scandales dans la Bible. Joseph décide de garder Marie parce que, bon, c'est l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fasse? Bon, que veux-tu que je fasse? Verset 20, comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Pourquoi je dis c'est un scandale? Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas personne connue dans la Nouvelle Alliance. Sous la Nouvelle Alliance, parce que n'oubliez pas que Dieu avait fermé le ciel pendant 400 ans. Pas de prophète, personne qui parle aux hommes. Et brusquement, tu me parles du Saint-Esprit. Pas simple. Verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète Isaïe. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ah, c'est pas Jésus? C'est Emmanuel. Ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait annoncé et il prit sa femme avec chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous lisez la Bible pour la première fois, vous dites c'est la confusion, hein? Hein? Vous comprenez pourquoi les gens sont si réticents quand on leur parle de lire la Bible? Bon. Mais la Bible dit vrai. La Bible ne se contredit pas. Allons dans Ésaïe chapitre 7. J'ai dit, on fait un peu d'histoire. Ésaïe chapitre 7, c'est le prophète qui, 8 siècles plus tôt, a parlé de cette Vierge et a parlé de ce Emmanuel, Dieu avec nous. Sauf que la Vierge dont parle Ésaïe, c'est pas la même Vierge du Nouveau Testament. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le terme utilisé littéralement, c'est la femme la femme est enceinte. Et il était question de la femme du prophète Ésaïe, quand il est dit que tu prendras ton fils, ton premier fils avec toi, et le deuxième fils va venir après, Maël, Shaal. Vous avez des prénoms dans la Bible, même pour vos enfants futurs. Shaal. Et donc, au verset 7, au chapitre 7, pardon, cette prophétie arrive et dans une histoire avec le roi Ahaz. Allez au verset 10. Le roi Ahaz, c'est le petit-fils du roi Ozias, l'un des meilleurs rois du territoire de Juda. Vous me suivez? Ahaz, par contre, c'est le pire des rois. Il n'a pas suivi la trace ou les traces de son père, de son arrière-grand-père. Et au verset 10, l'Éternel parle de nouveau à Ahaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe de l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les cieux, soit sur terre, dans les lieux élevés ou dans les lieux en bas. » Qu'est-ce qui se passe? Il y a des nations qui se préparent à les combattre Ahaz. Ahaz tremble et il ne veut pas consulter l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset suivant, « Je ne demanderai rien à l'Éternel, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Et de dire, « Je ne vais pas tenter Dieu, je ne vais pas le provoquer, je ne vais pas aller au-delà. » Or, Ahaz, parce que j'ai dit c'est un mauvais roi, ignoble, il faisait passer les enfants, les bébés par le feu, il faisait des sacrifices au lieu, etc., etc. C'était pas, il avait suivi la voie de Jéroboam. Jéroboam qui était un autre roi du Nord et qui avait décidé de faire à sa manière. Et le peuple marche dans une situation difficile. Et la situation ici, elle est critique. Et d'où les prénoms des fils d'Ésaïe. Vite au puage et désastre de l'autre côté. Et donc, le roi va arriver et il va dire, mais non, laisse faire. C'est-à-dire, laisse la situation pourrir. C'est pas comme ça que nous fonctionnons dans notre génération actuelle. On laisse pourrir les choses. On préfère marcher dans les ténèbres plutôt que de faire appel à Dieu. Ahaz dit, je ne vais pas bousculer Dieu. Combien aujourd'hui nous bousculons Dieu en faisant des jeûnes par-ci, des jeûnes par-là, des prières, on crie à Dieu parce que, Seigneur, hey, tu dors là. Ça fait des mois que je te prie pour une situation. Ahaz dit, mais non, laisse faire, laisse revenir. Mais Dieu est plus entêté que nous. Ésaïe dit, alors écoutez-moi, maison de David. Est-ce trop pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille ou la femme est enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Il n'est pas question ici de Marie. Or, c'est un signe prophétique qui va se manifester 8 siècles plus tard. Vous me suivez? C'est compliqué, je sais. Mais la prophétie d'Ésaïe vient plus tard, quand vous allez au verset 14, quand nous venons de lire, mais au chapitre 8, verset 8, 8 à 14, chapitre 8, juste la page à côté, 8 à 14, Dieu a décidé de prendre les choses en main pour ne pas laisser son peuple Juda dans la situation en bas. Il ne va pas laisser détruire son peuple. Et Dieu dit, il se tournera contre Juda, il inondera et débordera, il atteindra jusqu'au cou le déploiement de ses ailes, il remplira l'étendue de son pays, de ton pays, ô Emmanuel. Poussez une clameur, peuple, vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille, vous tous, au plus lointain de la terre. Préparez-vous au combat. Vous serez terrifiés, formez des projets, ils seront anéantis. Dites une parole, elle ne se tiendra pas. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, mais Dieu aussi est contre nous. Dieu peut être au milieu de nous, mais il peut être contre nous. Et l'histoire d'Israël nous le montre. Dieu va jusqu'à utiliser des non-chrétiens, des païens, pour terrasser son peuple. Et puisque Ahaz ne veut pas provoquer Dieu, il ne veut pas tenter Dieu, il ne veut pas mettre Dieu à l'épreuve, Dieu dit, je vais prendre les choses en main. Et vous allez voir qui est Dieu. Je serai au milieu de vous, contre vous et pour vous. Et au verset suivant, au verset 11, car ainsi m'a parlé l'Éternel, dit Esaïe, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration, vous ne craindrez pas ce qu'il craint et vous ne le redouterez pas. C'est l'Éternel désormais que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. Alors il sera un sanctuaire. Ce n'est pas ce qui est dit dans le Nouveau Testament quand il est dit qu'il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Si vous entendez tout ça aujourd'hui, vous méprisez, il sera terrible le jour de l'Éternel parce que Dieu dans sa colère est comme un feu dévorant. La Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique d'elle-même. Toujours au chapitre 8, au chapitre 9 plus loin. Non, chapitre 8, verset 14, que je n'ai pas lu, pardon. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils. Ah non, pardon, je suis retourné au chapitre 7. C'est verset 14 du chapitre. Ainsi, il sera un sanctuaire, un rocher qui fait trébucher, une pierre de malheur. Je répète. Ésaïe 8, verset 14. Il sera une pierre de malheur, un rocher qui fait trébucher. Il est question de Jésus comme un rocher de scandale, n'est-ce pas? Il est là pour faire chuter. Et lui-même le dit qu'il sera au milieu de nous comme celui qui va mettre la division dans les familles. Il dit, je ne suis pas venu mettre la paix, je suis venu mettre l'épée. Et c'est un peu ce qui va se passer. Quel est le rapport avec Marie ici? Allons dans Luc chapitre 1. Cette prophétie d'Esaïe va venir renforcer l'intervention de l'ange Gabriel auprès de Marie. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, dit le texte. Pardon, Luc chapitre 1er. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va intervenir. À partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Vous voyez les nuances qu'apporte Luc par rapport à Matthieu. L'ange lui dit, n'aie pas peur, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit, waouh. C'est ça? Non? Marie dit à l'ange, mais c'est pas possible, Seigneur, puisque je ne connais pas d'homme. Preuve qu'elle était vierge, bien que fiancée. Ce qui n'est pas le cas chez nous. De toute façon, aujourd'hui, vous le savez, vous pouvez toujours ignorer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher trop longtemps. Un ventre qui pousse. Marie dit à l'ange, et Comment cela peut se faire? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, ou sous-entendu, voici je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange s'éloigna d'elle. Nous découvrons la soumission de Marie d'un côté ici, la soumission de Joseph de l'autre côté, la soumission de Zacharie également, Marie d'Élisabeth de l'autre côté. Parce que c'est à Zacharie que Dieu s'est présenté, l'ange s'est présenté, plutôt 6 mois avant. Je peux vous faire une gymnastique encore dans Ésaïe chapitre 9. C'est pourquoi il faut avoir sa Bible. Hein? Ésaïe 9. Il est dit au verset 5, ou bien je lis pour vous, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, et Isaïe s'arrêtera parce qu'il a d'autres noms. Lion de Juda, saint, etc. Un fils nous est né. 8 siècles avant, Jésus n'est pas né. Vous êtes d'accord avec moi? C'est prophétique. C'est un type de Jésus. Et ici, dans notre texte, quand nous regardons les interventions de l'ange, c'est le même ange qui vient auprès des deux dames, Élisabeth a trouvé grâce plutôt auprès de Dieu parce qu'elle était stérile de la Bible. Toute femme a envie d'enfanter, d'être mère, n'est-ce pas? Et Dieu lui a fait une grâce dans sa vieillesse, comme pour Sarah et Abraham. Marie n'a rien demandé, elle veut juste avoir son mari sous les bras et puis advienne qu'il pourra par la suite. Mais Dieu lui fait grâce. Mais à part deux petits échanges dans la Bible entre Élisabeth et Marie et Jean-Baptiste et Jésus, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Ils sont cousins, elles sont cousines. Et pourtant, elles n'habitaient pas à Perpétrésois. Hein? Elles étaient à quelques kilomètres. Elles pouvaient se voir. Jean-Baptiste n'arrête pas le ministère de son cousin Jésus parce qu'il dit qu'il est plus grand que moi. Grand dans sa personnalité, grand dans tout ce qu'il est. Parce qu'il est avant moi, Jean-Baptiste. Il dit, on ne comprend rien. Mais vous connaissez la suite de l'histoire parce que 9 mois d'attente. Qu'est-ce qu'ils se disent, Joseph et Marie? Ils ne cherchent pas un prénom, ils ont déjà un prénom. Mais comment on va faire pour vivre avec le Saint-Enfant de Dieu à nos côtés? C'est quelque chose, hein? Parce que vous portez un enfant, vous dites, mais c'est une fille, un garçon, parce qu'on a les échographies maintenant qui peuvent démontrer ça. Mais quel type d'enfant il sera? Quel genre d'enfant? Soumis ou rebelle? Personne ne peut le dire, même si vous cherchez le plus joli des prénoms bibliques. Un enfant, dès son jeune âge, il montre qui il sera. Hein? Et souvent, il va chercher très loin dans les gènes, hein? Dans son caractère. On dit, ah, c'est pas Ishmael. Et pourtant. Mais la vie est ainsi faite. Et dans Luc chapitre 2, quand le moment vient pour accoucher, ils sont obligés de fuir Hérode. Et encore un scandale, c'est le Saint-Enfant de Dieu qui est obligé de fuir et puis il n'y a pas de place pour eux dans un hôtel. Luc chapitre 2, il vient le moment où l'enfant est présenté, sans oublier tous ces gens particuliers qui sont venus apporter des trésors particuliers, des cadeaux, d'où ils viennent ces gens-là pour notre enfant. Bon. Ça pose des questions. Chapitre 2, verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de Jésus. Siméon, il est béni et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction. Un sujet de scandale et en même temps un rocher. Vous vous souvenez dans Ésaïe? Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Annonce à Marie que tu vas souffrir. Elle qui était la bienheureuse va devenir la malheureuse par la suite. Vous connaissez une maman qui ne souffre pas avec ses enfants. Pas tous, ils ne sont pas tous pareils, mais bon, à un certain moment, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et plus ça grandit, plus l'enfant révèle sa nature, son comportement, sa conduite, et plus on se pose des questions. Tu es vraiment le fils à ton père, toi. Punaise. Et on se dit, mais jusque ça quand? Mais Marie savait. Marie avait-elle oublié? Non. Parce que Jésus, l'ange lui a dit, cet enfant sera là pour sauver l'humanité. Donc elle sait tôt ou tard que cet enfant ne sera pas elle. Elle sera pas, mais bon, vous savez, une mère, c'est une mère. Hein. Elle connaîtra la souffrance comme toutes les mamans. Nous ne savons pas grand-chose de Jésus ensuite, entre 0 et 30 ans. Si, quand même, à 12 ans, on le cherche et il fait comprendre une première piqûre à Marie. Mais pourquoi vous me cherchez? Vous savez qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Pourquoi vous me cherchez? Ça veut dire, je suis déjà parti. Il n'a pas fugué. Il est parti s'occuper des affaires de son père. Et Marie va prendre un premier coup d'épée dans le cœur. Chapitre 12 de l'évangile de Jean, aux noces de Cana, piqûre de rappel pour Marie. Vous connaissez l'histoire. Ils sont à un mariage, le vin vient à manquer, et Marie dit, hey, fiston, fais quelque chose. Et qu'est-ce qu'il répond à Marie? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors, prenons ça dans le sens négatif. Aujourd'hui, tu diras à ta mère, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dégage, sors de ma chambre! Ça existe aujourd'hui ou pas? D'accord, vous êtes d'accord avec moi. Là, on te dit, mais... C'est compliqué, hein? Qu'est-ce que tu as à me... C'est pas ça. Jésus est poli, Jésus est soumis aussi à sa mère. Et observez qu'en dépit de tout, il fait comprendre à Marie, mon père ne m'a pas encore donné le feu vert. Patiente, maman. Attends. Attends. Mais, enfant soumis, il obéit quand même. Et c'est le premier miracle. Mais quand même, ça a fait du tort un peu à Marie. Hein? Marie dit, d'accord, tu as raison. Ce n'est pas un manque de respect. Hein? Qui attire entre toi et moi? Ça veut dire, je n'ai pas d'autre d'avoir sauvé de toi? Ce n'est pas ça. Hein? Mais le moment n'est pas venu. Mon heure n'est pas venue. Et Matthieu chapitre 12, verset 46, un peu plus loin. Matthieu 12, 46. Vous savez que Marie a eu d'autres enfants. Vous savez ça? Comme on dit chez nous, une tchole. Il y a eu des fils et des filles. Matthieu, chapitre 12, 46. Jésus, alors qu'il est en train de prêcher, on vient lui dire, comme Jésus parlait encore à la foule, verset 46. Sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Et vous connaissez la réponse cinglante de Jésus. Mais les parents sont parfois bizarres. Hein? Certainement, il a fumé leur machin, là, hein? Fumé la moquette. Hein? Il est devenu fou, il commence à déraisonner, il perd la tête. Il est fou, allons chercher. On ne parle plus de Joseph là. Joseph peut-être est déjà décédé, on ne sait pas. Mais ses frères et sœurs sont là. Et on donne toute la liste de Matthieu chapitre 13 plus loin. Mais il dit, allons chercher, il est devenu fou. Quand vous êtes entré à l'évangile, vous avez commencé à parler de l'évangile, qu'est-ce que vos parents vous ont dit? Ah, hier, tu es entré dans le machin là. Tu n'as pas perdu la tête un peu, on t'a mis là. C'est là qu'il faut rester. Si dans la religion ou dans la relation, ça fait une différence. Et je me souviens, quand je me suis converti, j'étais le premier de la famille, même si j'avais des oncles et puis peut-être mon grand-père qui était chrétien. Ouh, toi aussi, tu es entré là-dedans. Et j'ai vu, grâce à Dieu, presque toute ma famille venir. Des frères et des sœurs, excepté deux qui sont témoins de Jéhovah. Mais la réponse cinglante de Jésus au verset 48 est « Mais qui est ma mère ?» Waouh, coup d'épée dans le cœur. Et qui sont mes frères et sœurs? Sinon, ceux qui sont là et qui font la volonté de mon Père. Voilà mes frères et sœurs et ma mère. J'aurais été à la place des frères et sœurs et de ma mère. J'aurais plié bagage et puis... Parce que c'est un vent, hein, comme on dit chez les jeunes. Waouh! Mais Marie continue, et on va retrouver Marie, même à la résurrection, avec son fils. C'est quelque chose de compliqué. Et quand Jésus fait ce rappel, il sait que faire la volonté de son Père, comme il avait déjà dit au verset 2 à 12 ans, c'est accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. C'est Jésus qui a été envoyé, c'est pas Marie. Il est venu nous enseigner à croire en lui, ou comment croire en lui. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, crois en son fils bien-aimé, pas croire en Marie. Le confesser comme sauveur et seigneur et pas confesser comme maman mon Dieu. Quelqu'un m'a dit une fois, tu sais pasteur, parfois je fais un coup de Marie, hein. Jésus prend trop de temps. Jésus prend trop de temps de je prie Marie. Et vous savez, c'est toute la vie religieuse est conditionnée par Marie. Mais quand on devient chrétien, ma vie doit être conditionnée par Jésus-Christ et pas par personne d'autre. Même pas par la vie de mes parents. Mais Jésus-Christ et Jésus-Christ, c'est le seul chemin. Et aujourd'hui, on me dit, oui, mais bon, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et parfois, je dis, déjà pleine de grâce. Vu le temps qu'elle est là. Hein? Mais aujourd'hui, observez qu'il n'y a rien comme commandement de la part des apôtres, de Jésus-Christ, de Dieu, rien dans la Bible, qui justifie le rôle de Marie. Autrement, elle serait montée quand? Nous avons une date approximative pour l'enlèvement de Jésus, c'est 40 ans après la Pâque. Ah, d'accord, il y a deux élèves qui suivent. Non, je fais silence, je dis, mais ils ne suivent pas ou quoi? 40 jours. Et 50 jours après, c'est la Pentecôte. Mais il n'y a rien dans la Bible qui dit que Marie est montée à une date précise. Et si elle est montée, comme on dit, elle est où là-haut? À faire quoi? Parce que nous savons que Jésus est assis à la droite de Dieu et que nous sommes assis en Christ. Marie est assise où? Et pour faire quoi? La plonge? Et donc, nous devons nous poser toutes ces questions. Et comprendre que rien dans les Écritures ne dit que Marie a une place d'honneur dans le ciel, que Jésus est aussi mort pour elle. Et si c'était Marie qu'il fallait adorer, Dieu n'aurait pas eu raison d'envoyer Jésus-Christ. Et donc nous avons matière pour contester aujourd'hui ceux de, les membres de notre famille qui veulent à tout prix que qu'il y ait une division entre nous et les catholiques parce que nous n'obéissons pas à Marie, nous n'adorons pas Marie. Il y a de ceux qui sont sortis du milieu catholique et qui sont devenus charismatiques. C'est un chemin intermédiaire entre les protestants et les catholiques. Et vous discutez avec les charismatiques, vous vous trompez, hein, presque. On dit, ah, ce sont des frères, oui, c'est vrai. Mais il y a encore Marie là au pied. Faites attention. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule personne qui occupe l'attention de Dieu depuis sa naissance, bien avant la fondation du monde, jusqu'à son retour glorieux, c'est Jésus-Christ. Nous ne savons pas quand il reviendra. Mais il reviendra et nous avons cette assurance. Mais jamais la Bible ne nous parle du retour de Marie. Je crois que l'une des dernières mentions de Marie dans la Bible, c'est dans Actes chapitre 12, où les disciples étaient en train de prier et puis on n'entend plus parler de Marie. On n'entend plus parler d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle est montée au ciel. Autre bêtise, hérésie de l'Église catholique, c'est quand Pierre quitte la ville, on dit Pierre est allé à Rome et il est devenu le pape. Il n'y a rien qui dit ça. Donc, on est appelé protestant parce que nous protestons ces choses-là. Et nous devons savoir où nous sommes, où nous allons. La doctrine de l'Assomption date seulement de 1950, 20e siècle. 1950, pas très loin. Or, nous savons que Jésus-Christ, bien avant la fondation du monde, il avait déjà reçu sa mission. Il y a une semaine, il y avait les GMG. Vous avez entendu parler? Tous ces catholiques jeunes qui se sont rassemblés au Portugal. Et le pape a cité des poètes des environs et d'autres stars ont parlé aux jeunes. Et les jeunes ont vécu ça comme un moment intense. Et j'ai lu sur un journal, un quotidien en France, que le pape a appelé les gens à être des bâtisseurs de ponts, des artisans de paix. Et il dit dans... je lis, mais je ne vais pas vous lire des bêtises. Nous avons besoin des bâtisseurs de ponts et d'artisans de paix dans sa patrie orientale. Mais aussi en Afrique. Bon, je vais repartir. Il dit, pour parvenir, je vais annuler tout ça, pour parvenir à l'infini, et je crois que nous pouvons y parvenir, Dieu c'est l'infini, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'un port, d'un seul, sûr, et de là, partir vers l'infini. Jolie définition de l'Église qui mène au Christ. Jolie définition de l'Église qui mène au Christ. Vous voyez, avec des paroles comme ça, on peut tromper encore le monde. Certes, nous avons besoin d'un port et d'un lieu d'attache. Mais c'est Christ qui nous mène à l'Église. Vous voyez, si on lit ça, on dit, ok, amen, ils sont dans la vérité. Mais c'est Christ qui sert de passerelle, de pont, qui nous mène, qui nous intègre dans l'Église. Et nous devons faire attention quand nous disons oui, il croit en Dieu, oui, il croit en Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il fait de Marie? Acte 4, verset 12, on l'a cité ce matin. Il n'y a aucun autre nom, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir honte de contester. La Bible dit, celui qui aura honte de moi ici-bas, j'aurai honte de lui là. Oui, ils vont à l'église, ils croient, ils lisent la Bible. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait de tout ce qu'il lit, de tout ce qu'il fait? Et pourquoi la Bible insiste sur le fait que nous devons naître de nouveau? C'est Jésus-Christ qui est monté, c'est lui que nous attendons sur les nuées. Si vous attendez quelqu'un d'autre, je ne suis pas dedans. Dieu le Père nous a envoyé le Fils. Le Fils nous a envoyé le Saint-Esprit, Consolateur. Et le Saint-Esprit tourne nos regards vers le Fils, pas vers Marie. Le Saint-Esprit tourne nos regards vers le Fils et vers son œuvre expiatoire. C'est lui le Rédempteur, c'est lui le Sauveur, c'est lui qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Et aujourd'hui, je n'ai pas le droit de le supplanter par Marie ou par quelqu'un d'autre. Et trop souvent, nous donnons, que ce soit au pasteur, que ce soit à Marie, que ce soit au prêtre, nous les mettons là, sur un piédestal. Jésus-Christ seul, un seul chemin, un seul médiateur, un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Alors si dans 2 jours, on vous invite à adorer Marie, c'est l'Assomption, dites non, parce que j'ai déjà Jésus. Et ajoutez, s'il vous plaît, Jésus-Christ. Parce que des Jésus, on en trouve partout au Portugal et en Espagne. Mais il y a un seul Jésus-Christ. Je ne vous apprends rien. Mais il y a un seul nom, Jésus le Christ, le Messie, l'Envoyé. Et nous devons faire attention à ce que nous accomplissons ici-bas comme œuvre, parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ et nous sommes assis en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. À nulle part ailleurs. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à avoir une bonne assise en Christ et à faire attention à ce que nous lisons et croyons, parce que nous serons comme Eutychus, assis entre 2 chaises ou sur le bord de la fenêtre, et tôt ou tard on bascule. Il y a de ces doctrines tellement solides, entre guillemets, ici-bas. Discuter avec les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Rastas. Ils sont assis dans ce qu'ils croient. Et si vous n'êtes pas bien assis en Christ, vous basculez. Soyez bien assis en Jésus-Christ. Le seul chemin. Dieu avec nous, c'est lui, Jésus-Christ. Amen.